Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On est tous un peu indignés et surpris.
Carte blanche.
C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Oh que oui, la carte de crédit blanche ce matin de Stéphane.
Parce que tu veux nous parler de baisse d'impôts, Stéphane.
C'est un peu le thème de la semaine. Et j'ai maintenant l'impression qu'on est les citoyens les plus vertueux de la Terre. On peste collectivement contre quoi? Contre les baisses d'impôts. Je dirais pas que c'est le monde à l'envers. C'est pas le jour pour le faire. Je fais ça généralement le vendredi matin. Tu peux pas imaginer de meilleurs élèves. On va bientôt faire la file pour aller au comptoir de Revenu Québec retourner ce trop d'argent. Il y a quelques années, tu t'en souviens sans doute, on dénonçait l'économie au noir au Québec. T'as souvenir de ça?
Oh oui.
On était apparemment pas mal ratoureux, cette économie au noir qui minait les précieux revenus de l'État, qui nous avait permis depuis 30 ans, 40 ans, de construire au Québec cet îlot paradisiaque qui a été arraché aux mains de l'implacable machine capitaliste, aux fameux travailleurs du monde entier. Unissez-vous, slogan communiste. On pose aujourd'hui quelque chose de beaucoup mieux. Hein? Contribuables du Québec entier, secouez-vous. Ou même inspecteur de l'impôt, secouez-nous. Il faudrait pas payer moins d'impôts. C'est ce qu'on croit comprendre cette semaine. C'est un retournement. On a été, je sais pas si on était les champions, mais on n'était pas pire dans l'économie au noir. Et on veut aujourd'hui, collectivement, de la rigueur fiscale. Avant cette semaine, moi, je pense jamais avoir vu un gouvernement s'excuser de baisser les impôts pour ses citoyens. C'est rare.
Mais c'est peut-être comme le père de famille qui amène sa famille dans le sud alors que l'épicerie est pas payée, que la cour est pas faite, puis que le cabanon coule, là. On aime ça, les voyages dans le sud. Là.
T'as là-dessus certainement raison. Il y a comme soudainement, pour nous tous, un redressement de l'échine. Puis on se dit, avant d'aller sur la plage, peut-être faudrait-il faire en sorte qu'on soit capable de manger. Bon réflexe. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on s'entend que le gouvernement Legault respecte pour l'instant une promesse électorale. Mais de tenir cette promesse ne change pas grand-chose à la position fiscale relative du Québec en Amérique. On est quand même les citoyens parmi les plus taxés. Tu te dirais que c'est à peu près vrai à la grandeur de l'Occident. On ne donne pas notre place, parce que, et c'est vraiment le cas de le dire, hein, on la paye, notre place. Il y a plusieurs bonnes raisons, d'ailleurs, pour applaudir cette vertu collective, en théorie. Ce que tu disais, il y a, c'est vrai, un modèle québécois qui est unique en Amérique du Nord, par-delà les soucis qu'on pourrait avoir sur le toit qui coule dans le cabanon puis l'épicerie. C'est chez nous probablement que l'écart entre les riches et les pauvres est le moins grand. C'est un bon indice de qualité de vie qui favorise aussi le bien-vivre ensemble. Puis les exemples de programmes innovateurs qui rendent nos vies collectives meilleures sont légion. On peut commencer avec le réseau des garderies. À l'époque, les garderies à 5 $ qui ont inspiré beaucoup de législateurs ailleurs. Le principe général, il est tout simple. J'ai pas besoin de le répéter beaucoup. T'sais, on paye plus d'impôts, mais en échange, on laisse le gouvernement en bon fiduciaire. Tu parlais du père de famille avant de partir ou de la mère de famille avant de partir dans le sud. Donc, la figure qui est le fiduciaire fait en sorte que l'argent qui est collecté va permettre d'offrir à tout le monde des bons services, des services de santé, d'éducation, de voirie, de sécurité sociale. La liste est longue. À chaque fois que le gouvernement nous redonne de l'argent, que ce soit en impôts cette semaine ou en chèque bonus, comme il l'a fait il y a quelques mois, il est donc parfaitement légitime, comme je pense ça a été beaucoup fait à l'antenne, de dire pourquoi ne pas avoir investi cet argent dans nos écoles malades, dans nos hôpitaux malades, nos routes malades? Là aussi, la liste est longue. La réponse que personne semble, ou plutôt la question que personne semble vouloir poser, c'est peut-être parce que on n'en a pas pour notre argent. Mmh. Il y a 10 jours, tous les commentateurs et journalistes sont tombés à bras raccourcis, j'ai pas fait exception, sur l'incurie de la SAAQ, qui, après avoir englouti des centaines de millions dans son nouveau système informatique, se trouve aujourd'hui gros gens comme devant. En fait, c'est pas la SAAQ qui est gros gens comme devant, c'est les citoyens qui ont fait la file et continuent peut-être de la faire pour avoir un service qui devrait être facile et accessible et qui devrait pas justifier que tu prennes une journée de congé pour renouveler ton permis de conduire. C'est donc des centaines de millions investis qui donnent pas l'impression de faire la différence. On viendra pas sur le triangle des Bermudes du dossier médical électronique. Ça fait 10-20 ans qu'on dépense des sommes colossales pour essayer de mettre à profit les miracles de l'informatique pour simplifier le parcours des patients, économiser. Et à ce jour, on a mis à profit, gros profit, les géants de la consultation qui sont embauchés pour trouver la martingale gagnante. Puis on ne l'a pas trouvé. Est-ce qu'on veut s'arrêter 2 secondes sur les coûts de construction? Je pense que vous en parliez hier à l'émission. 1 milliard de plus pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine, jour au lendemain, comme une mauvaise surprise qu'on accepte. Le pont de l'île aux Tourtes, avant même la première pelletée de terre, on sait qu'il va coûter 45-50% plus cher que prévu. Ça dépasse les 2 milliards de dollars. Puis je suis pas naïf, je sais que construire coûte quelque chose. Est-ce qu'on a effectivement les meilleurs rendements? Entre autres raisons données pour l'explosion des coûts à l'île aux Tourtes, le devis précise qu'il devra être, j'ouvre les guillemets, porteur d'une identité distinctive, fermez les guillemets. Donc, pour le prix de base, ça pouvait pas être beau. J'ai vraiment là-dessus envie de perdre patience. On dépense grosso modo 1 milliard par semaine pour notre réseau de santé. Je fais l'hypothèse, elle est profane. Puis peut-être que c'est parce que ce matin, il faut qu'on fasse du temps ensemble que j'ai des idées de même. Mais je fais l'hypothèse que si on doublait la note, 2 milliards par semaine, on serait heureux pendant une couple de mois, puis éventuellement, on arriverait à la conclusion qu'il manque d'argent. La preuve est faite, je crois, je suis même pas mal convaincu, parce que ça fait longtemps que je joue dans le film, que l'enjeu n'est pas qu'une simple affaire d'argent, mais de livraison de services. Il n'y a rien de plus facile que de dénoncer la bureaucratie, j'en suis convaincu. D'ailleurs, elle existe dans les grandes entreprises. Hein. C'est pas juste une affaire de gouvernement. L'incompétence administrative, c'est pas un monopole d'État. Mais elle y est assez bien représentée, l'incompétence administrative. Nous avons un appareil bureaucratique monstrueux qui développe des logiques de système qui finissent par créer de l'enflure. Puis là aussi, je suis conscient qu'en le disant, je m'expose à faire de la démagogie ou à donner l'impression de la solution facile, mais il suffit de s'arrêter au résultat, contempler le réel pour juger. Est-ce qu'on a le sentiment que les affaires tourneront, qu'on en a pour notre argent? Alors, si vous dites oui, et ça se peut, ben je dis exiger aux prochaines élections un gouvernement ou un parti qui va promettre d'augmenter les impôts pour qu'il ait davantage d'argent à redistribuer dans un système ou dans des solutions qui vous satisfont apparemment. Sinon, moi j'ai une idée. Continuons à livrer moins de services, mais avec moins d'argent. Perso, moins de services avec plus d'argent, j'ai pas l'impression que c'est totalement win-win. Mmh.
C'est parce qu'on en veut plus des services, mais on veut pas en payer pour plus. C'est ça l'affaire aussi. C'est quand tu calcules le nombre de soins qu'on paye par rapport à ce qu'on payait il y a 10-15 ans à l'école, là c'est les déjeuners, ça va être les dîners, après ça c'est le parascolaire, après ça, c'est comme maintenant on veut que tout devienne payé par l'État, mais on veut pas payer plus d'impôts.
Absolument, c'est une partie de l'équation. Mais si on commençait par s'efforcer de livrer.
Que la base soit là. Mettons la base, là. Des routes qui se tiennent, des écoles qui se tiennent, des hôpitaux qui sont pas en train de s'effondrer, puis des soins de base, puis ça serait déjà
sûr. Un prix compétitif. Ouais. Avec une forme d'imputabilité. Où tu dis, ben justement, pour revenir à ton image du départ, le père ou la mère de famille, si elle est prête à nous envoyer sur une plage en vacances, est-ce que c'est parce que justement on a réussi à faire en sorte que toutes les autres dépenses courantes se sont tellement bien faites, on a été tellement efficace à payer l'épicerie, l'hypothèque, et faire en sorte que le toit coule pas, qu'on a un petit lousse pour partir en vacances. Donc, effectivement, le jour où on sera capable de faire la démonstration que sur les essentiels, on est efficace dans la livraison des services, je pense qu'on pourra se dire, ben oui, on est capable de contempler autre chose. Et pourquoi pas des baisses d'impôts pour que nous choisissions comme contribuables de décider ce qu'on fait avec cet argent qui est à nous. Parce que l'argent qu'on envoie à l'État, c'est notre argent. Comme le pouvoir qu'on délègue à nos élus, c'est notre pouvoir basique.
Bon, Stéphane, on se reparle demain de Joe Biden qui est en visite aujourd'hui. Ça va être, en fait, il va être surtout en visite demain.
En fait, c'est ça exactement, une visite un peu raccourcie. Ça donne l'impression qu'au départ, on était pour le Festival de l'amitié canado-américaine, 48 heures de l'oncle Joe qui vient voir son filleul préféré, Justin. Du point de vue, disons, des relations bilatérales, c'est mieux que celle qu'entretenait le père de M. Trudeau avec son homologue Nixon, qui l'avait traité, je pense, de asshole, quelque chose comme ça. Je parle de M. Nixon quand on a eu accès aux enregistrements du Bureau Oval. Aucun amour, aucune forme d'idylle entre Nixon et Trudeau père. On peut penser
Trudeau qui avait dit « je me suis fait traiter de bien pire chose par de bien pire personne ».
Exact, exact, exact. Il y avait quand même un sens de l'humour, sinon de la répartie. Justin Trudeau qui a probablement de meilleures relations avec l'administration démocrate que son père en avait avec l'administration républicaine. Je pense que ça allait mieux avec Barack Obama. Ce que je constate, c'est vexatoire. C'est pas la première fois. Il y avait une tradition qui voulait qu'entre bons voisins, la première visite officielle du président se fasse à Ottawa. Monsieur Trump avait rompu avec ça. Monsieur Biden, n'en parlons pas. Il a fait le tour de la planète 4 fois avant de venir à Ottawa. Il devait être là 48 heures. Mais comme quand on était petit, il va y avoir quand même un sleepover. Il va coucher chez Justin ou à côté. Il va venir passer une nuit symboliquement. Apparemment, ça veut dire quelque chose. Donc, il va arriver juste à temps pour quelques conversations et ensuite faire de dos à Ottawa. Grosse journée demain. La question qu'on peut se poser, c'est quelle importance a le Canada sur l'écran radar des États-Unis? Sont-ils vraiment soucieux de bonnes relations? On va parler nécessairement du chemin Roxham. M. Trudeau, tu l'as peut-être souligné aujourd'hui, semble penser qu'il pourrait y avoir là-dessus du progrès. Moi, je suis davantage intéressé par le rétrécissement de la fenêtre aux États-Unis pour les entreprises canadiennes, avec le Buy America de M. Biden et avec les subventions à coût de milliards pour la transition énergétique à des entreprises américaines. Ça va rendre notre compétitivité extraordinairement plus difficile. On n'en parlera pas beaucoup. Rappelons-nous que le premier geste politique de Biden, je termine là-dessus, ça a été l'annulation du pipeline Keystone. Alors, on peut être contre celui-ci. Il se trouve que M. Trudeau, lui, voyait que les intérêts du Canada passaient par le pipeline. Et il y a quelques jours à peine, M. Biden a décidé de commencer de l'exploration et des forages en Alaska. Peut-être qu'il y aura un pipeline ou une manière pour faire transiter le pétrole qu'on va y extraire. Ça pourrait avoir un impact sur nous au Canada. Donc, une conscience verte à géométrie variable pour M. Biden. J'imagine que Trudeau voudra lui en parler aussi.
Stéphane, à demain.
Ciao.
Salut.